Voilà, donc on va démarrer. Je donne la parole, parce qu'on va se la partager, à mon collègue Pascal Tozzi.
Oui, merci Chantal, merci à tous. Donc, comment a commencé cette aventure qui fait que devant vous, il y a un politiste et un anthropologue qui se retrouvent? On était à la cafétéria et on parlait évidemment des présidentielles de 2012 et des propos de Marine Le Pen, finalement, disant qu'un certain nombre, un fort pourcentage de viande halal était saturé, les marchés d'Île-de-France, et que finalement le consommateur français retrouvait dans son assiette et à son insu de la viande halal, et que ça c'était quelque chose dont il fallait à tout prix se méfier, et sur un sujet sur lequel il fallait que le gouvernement de l'époque intervienne, et notamment travaille sur la traçabilité. Donc on va partir de ces propos, notamment du Front National, et comment on s'est rencontré, et que la rencontre avec quelque chose de surréaliste, pour éviter, vous connaissez la définition du surréalisme, hein, la rencontre d'un parapluie, d'un fer à repasser sur une table d'autopsie. Donc plutôt que de dire qui est le parapluie, qui est le fer à repasser, on s'est dit on va te faire quelque chose qui n'est pas forcément surréaliste, mais qui essaye, moi dans un premier temps, en présentant les choses un peu macro, les marqueurs d'un discours politique et les enjeux qu'il y a autour, de poser une contextualisation, et Chantal ensuite, du point de vue un peu plus micro, avec les enquêtes de terrain, va vous présenter aussi ses réactions par rapport à cette contextualisation et aussi ses renégociations d'un positionnement par rapport à cette saisie politique, pas controversée, j'allais dire carrément polémique au sens guerrier du terme. La polémique, au niveau étymologique, ça veut dire finalement qui est apte à la guerre ou qui se prépare à la guerre. Là, on est dans une campagne électorale avec ce que les mots peuvent traduire de violence, pas uniquement symbolique. Donc Chantal va dire quelques mots sur la problématisation. Après, elle va me repasser la parole. Je te redonnerai la parole.
Donc, en fait, on s'est demandé en quoi le halal et les discours qui sont tenus à son sujet permettent-ils d'interroger le lien entre alimentation et migration, d'une part, et entre alimentation et citoyenneté, d'autre part, révélant en quelque sorte l'économie morale qui traverse notre société contemporaine. Donc, au niveau des minoritaires comme au niveau des majoritaires, au sens sociologique du terme, on s'est dit que le halal, finalement, constituait une sorte de plaque tournante d'enjeux tels que la sécurité alimentaire, la reconnaissance des droits liés à la citoyenneté, le contrôle de soi. Donc, cela révélant finalement que le débat porte sur des normes sociales en co-construction, partagées tant par les majoritaires que les minoritaires. Les majoritaires que les minoritaires. Donc dans un premier temps, on va montrer les enjeux de tensions qui portent donc sur ces normes alimentaires musulmanes et qu'elles ne se limitent pas seulement, comme le dirait Colette Guillaumin, à une contre-mesure à l'égard de la délimitation d'un « nous » national. Et dans un deuxième temps, donc à partir de différentes recherches que j'ai effectuées dans une zone du Bordelais que vous connaissez très bien, qui se situe entre Saint-Émilion et Bergerac, j'ai essayé donc de voir comment le halal était une sorte de recours individuel et collectif, donc par des acteurs minorisés en tant que musulmans, migrants ou descendants de migrants, au moment donc des présidentielles et ensuite donc dans les années, dans les mois qui ont suivi. Je te rends la parole.
Donc sur l'ambiance, j'allais dire, des présidentielles de 2012, je vais surtout restituer les marqueurs du discours du Front National, sachant que autour de ces marqueurs, les factions en présence se sont évidemment positionnées et que bon, il y a eu, on reparlera si vous souhaitez dans les questions des positions plus précises du nouveau parti antidémocratique par exemple ou du Parti socialiste, mais je vais vous donner surtout les marqueurs du discours frontiste. Sachant que, en préliminaire, je souhaiterais revenir sur cette idée que finalement le discours frontiste est un discours, comme les autres partis politiques, lorsqu'ils vont s'emparer de la question halal, un discours de sécularisation. Alors, à quel sens, comment on pourrait définir la sécularisation? Ça nous a semblé intéressant finalement de se référer à des travaux, notamment d'analyse des idéologies, mais aussi d'un professeur des universités, Monod, là, qui est un philosophe, et qui définit la sécularisation comme ayant une double face. C'est-à-dire, finalement, il y a un premier processus qu'on connaît tous, qui est le plus évident, c'est finalement cette séparation, cette neutralisation par rapport au religieux, cette neutralisation dans l'espace public, avec une forme de mise à distance de la religion. Première vision qu'on pourrait développer, mais sur laquelle je ne vais pas m'apesantir. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi la deuxième vision de la sécularisation, où Monod dit finalement, ce qui change dans la sécularisation, ce n'est pas la structure du discours, c'est simplement qu'un discours qui était moral et qui avait comme référence morale des valeurs religieuses, va devenir une autre forme de morale, mais finalement, on va substituer des transcendances, mais la rampe de lancement du discours moral, la constitution, la structure, resterait la même. Donc c'est intéressant de voir comment, à la fois, autour du halal, on va mobiliser une sécularisation mise à distance du religieux, voire stigmatisante, et de l'autre côté, l'idée d'une sécularisation qu'on va retrouver à travers un discours moral qui va occuper le discours moral qui est plutôt porté par la partie religieuse. Donc, et c'est pour ça aussi qu'il y a une concurrence des entrepreneurs de morale, au sens où l'entrepreneur de morale, c'est celui qui va à la fois dire la déviance, et c'est celui qui va essayer de susciter de nouveaux besoins moraux dans la société, et c'est ce rôle tribunicien que le Front National essaye de convertir en se disant, mais plutôt que de livrer un discours minoritaire, avec en plus la stratégie à ce moment-là, et on est dans une cosmétique du discours du Front National, c'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer frontalement la cible de l'étranger, de l'immigré, on va attaquer l'autre, mais par la cible un peu plus incidente, que va être par exemple l'islam en général, et finalement le halal là-dedans est une cible secondaire qui permet malgré tout de toucher à l'altérité culturelle, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de ces discours qui touchent aux deux aspects de la sécularisation et de la morale? D'abord, évidemment, pour pouvoir faire de l'idée de sécularisation, pour pouvoir la décliner dans une forme d'idée laïque et d'idée laïque de combat, il faut renforcer l'idée que l'aliment halal est un aliment qui est fortement religieux, donc qui est islamisé. Donc dans le discours, on va évidemment mettre en place tout l'appareil idéologique pour renforcer cette islamisation de l'alimentation. Donc là, Marine Le Pen, évidemment, dit en plus qu'elle associe pour construire cette islamisation automatiquement et très tôt dans le discours la viande halal aux prières de rue. Elle dit, j'ai alerté, moi, en tant que détentrice et dirigeante d'un parti qui défend les valeurs laïques, je note, entre parenthèses, le glissement. Hein. Le Front National ne récupère pas le discours laïque depuis longtemps. Le Front National investit la laïcité comme référentiel discursif à l'heure d'aujourd'hui pour plusieurs raisons, et notamment des raisons de sociologie militante interne qui font que la partie, une certaine partie de la base militante du Front National qui était très marquée, on va dire, sur un certain catholicisme plutôt dur, avec le renouvellement de cette base militante, il y a une autorisation tacite de pouvoir investir le registre de la laïcité qui aurait pu perturber fortement l'organisation interne d'un Front National avant ce renouvellement des militants. Je ferme la parenthèse dire qu'on investit, premier aspect du discours, la surislamisation de l'aliment au niveau médiatique pour pouvoir la combattre au nom des principes nouvellement importés dans le discours du Front National de la laïcité. En même temps, on ouvre une chausse-trappe au reste de la classe politique, et notamment M. Fillon va tomber dans cette chausse-trappe en attaquant lui carrément, plus directement toutes les religions, et en renvoyant à l'archaïsme de toutes les religions, notamment via cette lecture du halal. Donc, ce qui est aussi intéressant dans la métaphore que Marine Le Pen va utiliser au nom de la laïcité pour toucher l'altérité derrière le halal, c'est que quand vous l'écoutez, j'ai réécouté sur ça sur Internet avant-hier pour être bien sûr des termes, elle parle autour du halal d'un marché qui est comploteur, qui se diffuse à notre insu, dans notre dos, et c'est très proche de la rhétorique de ce que d'autres cadres du Front National vont tenir au sujet d'un certain islam. Donc on est finalement vraiment sur un discours où l'aliment devient la métaphore de la religion qu'on combat et de l'altérité qu'on combat par le biais du marqueur religieux. Il faut que je me dépêche. Deuxième aspect, évidemment, on en a parlé, le discours moral hygiéniste, alors qui a un peu embarrassé les autres partis politiques, puisqu'évidemment, le Front National, comme la plupart des partis politiques, mais fortement pour travailler à cette cosmétique en cours dans l'appareil de parti, va recycler du discours d'autres espaces et de l'expertise, et notamment les dires d'experts vétérinaires. Mais sauf que, alors je ne sais pas s'il y a des vétérinaires, mais en partie, le dire d'experts vétérinaires, c'est une façon de dire le risque, clairement. Et ceux qu'effectivement des rapports vétérinaires ou d'agences vétérinaires ont pu dire sur l'abattage sacrificiel, on va dire, mais ça a été aussi dit sur tout un tas de processus ou de procédés de production, à la fois d'autres manières d'abattre, sur l'élevage en batterie et autres. Donc il va y avoir une sélection du discours hygiéniste dans ces deux aspects, c'est-à-dire le discours hygiéniste santé publique, avec cette idée qu'apparemment on ne fait que dire ce que la science neutre a dit, c'est-à-dire que c'est dangereux, alors qu'en fait il y a un amalgame et que derrière le discours de santé publique, on n'a bien sûr pas un discours neutre. C'est-à-dire que le discours de santé publique a toujours été un discours de la norme, de la norme technique, mais aussi de la norme comportementale. On le voit, on voit notamment, si je prends l'exemple de l'aménagement urbain, comment au 19e, les discours de santé publique se mêlent très fortement avec les discours de bonnes mœurs et d'une forme de dressage comportemental. Donc la santé publique, premier recyclage, deuxième type de discours en lien avec ce marqueur hygiéniste, l'imaginaire de la contamination classique, avec cette idée presque de l'ordre de la pensée magique que vous connaissez mieux que moi, selon laquelle l'ingestion d'un aliment impur va modifier durablement notre être et transférer des propriétés fondamentales et on va devenir alalisé. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment, malgré tout, petite parenthèse, ce discours. Et comme tout discours moral, c'est là qu'on retombe sur cette idée de structure commune des discours moraux qu'on a évoqué tout à l'heure. Parce que pour Marine Le Pen, effectivement, la souillure va naître de l'ingestion de cet aliment qui draine tout un tas de préjugés et d'illégalisme au sens général du terme. Mais en même temps, c'est un discours opposé, mais qui, quelque part, est sur la même structure, qui concède, à l'inverse, qu'en ingérant un aliment qui est pur, on va aussi en tirer des composantes purificatrices. Donc on voit, en même temps, que le discours moral, la structure du discours moral est occupée de façon symétriquement opposée, mais que, malgré tout, à un moment donné, on retrouve un discours commun aux effets de l'ingestion de l'aliment sur... alors pour les uns ça va être dramatique et ça va être un vecteur de souillure, pour les autres ça va être au contraire un vecteur de contribution à une forme de purification. Je terminerai rapidement pour dire troisième marqueur fort qui lui aussi est réversible, la morale du bien-être animal. D'accord, évidemment, là l'équation est facile, conditions d'abattage, souffrance animale, barbarie, donc celui qui tue ou qui consomme cet aliment est un barbare, ce que dit Florence, c'est-à-dire on s'attribue mutuellement la barbarie. Avec cette idée qui est aussi étonnante dans la réversibilité du discours moral, que pour certaines associations de défense des animaux récupérées ou recyclées, encore une fois, par le Front National, les conditions d'abattage sont les plus barbares possibles, alors qu'on voit à l'opposé que pour ceux qui sont porteurs de ce mode d'abattage rituel, c'est au contraire les conditions d'abattage qui sont les plus dignes pour l'animal et qui, du coup, rejaillissent sur la dignité de celui qui procède à ces modalités d'abattage-là. Donc toujours pareil, une occupation diverse et morale du registre du bien-être animal, mais où on va attribuer aux uns et aux autres, en fonction de qui est l'ennemi, la responsabilité de la barbarie, avec aussi cette idée qui est liée à ce que dit Noémie Vial sur l'idée que l'Occident et les sociétés occidentales en particulier ont essayé de gommer, de réduire à un euphémisme ce moment où on abat l'animal et où finalement elle dit toujours ça, enfin elle a dit ça dans beaucoup de ses écrits, on veut manger de la viande mais on ne veut pas manger du cadavre, et pour arriver à cette espèce à cette schizophrénie du mangeur de viande et pas de cadavre, passez-moi l'expression, il faut à tout prix qu'on escamote le moment de la mise à mort. Et Marine Le Pen, sans avoir lu, je pense, passez-moi l'expression, je ne trouve pas ce mon propos, mais je pense sans avoir lu Noémie Vial, illustre bien en tout cas le fait qu'elle va générer de l'indignation, parce que là où on essaye de rendre la mise à mort masquée et occultée, elle réintègre la violence, parce que je vous passe les détails qu'elle donne dans ses interviews sur la manière dont la trachée est coupée, dont ça saigne, dont machin, etc. Donc elle joue aussi sur cette réintégration de la mauvaise mort et de la mort qui peut choquer le consommateur occidental. Et je terminerai, Chantal, ne t'impatiente pas, sur l'idée transversale qui va traverser autant le côté de l'argumentaire laïque récupéré que celui de la morale hygiéniste recyclée, que celui d'une instrumentalisation du bien-être animal. Ce qui traverse tout ça, c'est finalement la traçabilité qui apparaît des fois comme une solution, mais une solution problématique dans le jeu politique, avec Nicolas Sarkozy qui, pour des raisons électorales et pour donner l'impression, puisqu'il dit les Français sont préoccupés par la viande halal, qu'il intervient, va proposer la traçabilité. Sachant que cette traçabilité-là, évidemment, elle est loin d'être neutre, on le sait, elle va reposer des frontières. C'est ce que dit Torny. Torny, il dit, finalement, c'est un marquage frontière, cette traçabilité, c'est un modèle complémentaire à celui de la contention et de la clôture territoriale. Donc on est, encore une fois, sur ce rapport, sur ce discours moral, sur ces aspects qui sont générés par les différentes interprétations de la sécularisation. Et toujours, encore une fois, je terminerai là-dessus, cette réversibilité autour de la traçabilité. D'un côté, elle est vue comme une contribution à la transparence négative. Ça va permettre de reconnaître dans les supermarchés ce qui est mauvais. Ça, c'est le discours du Front National. Vous pourrez, comme ça, ne pas en consommer à votre insu. Vous pourrez vous tenir à l'écart de cette nourriture. Et évidemment, pour d'autres, notamment les défenseurs des intérêts de la filière halal, ça va être une contribution à une transparence positive. Ça va vous permettre d'identifier ce qui est bon. D'accord ? Hop, c'est bon. Enfin, on en reparlera. Et puis j'ai simplifié aussi.
Vas-y, j'entends. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le vignoble, enfin dans un des vignobles du Bordelais à cette période, donc je me suis prêtée au jeu d'aller sur le terrain et d'aller voir comment les discours du leader du Front National autour du halal étaient discutés, étaient interrogés par les mangeurs musulmans qui sont arrivés dans cette région dans les années 60-70 pour travailler dans le vignoble comme ouvrier agricole. Donc je me suis concentrée sur ces familles, donc certains sont grands-pères, pères et les enfants. Donc en fait, on voit que les discussions qui ont lieu autour de ces discours donc du leader du FN, comment ils mettent en évidence les transformations sociales vécues sur ce territoire aux économies donc devenues globalisées et donc qui mettent en évidence les luttes, les classements, les négociations formelles et informelles donc entre minoritaires et majoritaires sur ce territoire. Donc on est dans un contexte singulier, vitivinicole, où sévit un racisme décomplexé. Sur les murs, on peut lire désormais « Salara », par exemple. C'est un endroit où on a une paupérisation croissante, avec une non-reconnaissance économique de la part apportée par les ouvriers agricoles, donc dits « arabes hein. ». Avec une montée du Front National, par exemple à Castillon-la-Bataille, le Front National, au premier tour des élections, est arrivé devant tout le monde, donc avec pratiquement 28% de vote. Et puis, avec depuis deux mois, la mise en place d'une politique sécuritaire autour donc des jeunes arabes qui seraient considérés comme étant fauteurs de troubles dans l'espace public. On est aussi dans un contexte national particulier où il y a un processus de minorisation ethnique qui agit sur les étrangers sociologiques, que sont donc ces enfants de migrants post-coloniaux musulmans, et dans lequel les élites et les médias occupent une place centrale ces dernières années, comme a pu le montrer l'historien Gérard Noiriel. Donc on est aussi dans un contexte international, vous avez vu, je remonte les niveaux, un contexte international où l'islam est fréquemment pointé du doigt, encore là par les médias, comme étant responsable de l'atteinte d'intégrité morale et physique de l'Occident, tantôt laïque, l'Occident tantôt laïque, tantôt chrétien, comme a pu le montrer Pascal. Donc dans ce contexte contemporain, alors je mets des guillemets au halal, il est vécu comme présent partout dans le monde et permet à mes interlocuteurs, donc en vivant en milieu rural, enfants comme parents, de s'inscrire dans une culture globalisée. Donc le halal est considéré comme possédant une valeur économique internationale et tout ça est renforcé par les déplacements des uns et des autres. Alors par exemple, ceux qui deviennent Hajj, qui vont à la Mecque, par exemple, s'aperçoivent qu'il y a des produits halal qui y sont vendus. Les plus jeunes, lorsqu'ils font des voyages scolaires à Londres, par exemple, ils s'aperçoivent aussi que c'est quelque chose de très présent. Ou alors, quand ils sont aussi dans les allers-retours entre Casa, Rabat, etc., et s'aperçoivent que pour leurs cousins ou les gens de leur famille, ces questions-là sont aussi en tous les cas portées par les élites urbaines. Donc ils trouvent que c'est aussi un moyen de revalorisation de cette appartenance. Donc dans un contexte viticole où l'offre économique de produits halal s'est démultipliée, puisque ça fait 10 ans que je travaille sur ce territoire, où on voit qu'il y a des boucheries, le halal est vendu dans les supermarchés, au centre Leclerc, c'était une révolution. Il y a des kebabs qui se sont ouverts. Ça a permis donc à ces jeunes ruraux, donc descendants de ces migrants post-coloniaux, d'afficher une espèce d'urbanité. Ils se sentent, dont ils se sentaient exclus, parce que si vous voyez un peu ce territoire, c'est à 80 km de Bordeaux, où il y a un train toutes les 3 heures ou toutes les 2 heures, où il n'y a aucune offre d'activité, de loisirs. Enfin, c'est un peu une espèce de double peine pour ces jeunes que d'être dans ce territoire. Donc, avoir du halal, c'est plus nécessaire d'aller à Libourne ou d'aller à Bordeaux. On peut le consommer sur place, qui est considéré comme une espèce d'égalité de traitement. Donc la valorisation de la certification halal et des produits de l'industrie agroalimentaire donc apparaît sur les jeunes là que j'ai rencontrés qui ont entre 13 et 20 ans comme une culture de la contestation, comme une culture revendicative, éthique. Et par exemple, alors je les ai particulièrement orientés sur le discours qui était tenu par le Front National, hein, donc ils étaient totalement au courant. Et donc l'accusation de provoquer de la souffrance animale, vous allez voir, c'est intéressant parce qu'on est dans un milieu rural quand même. Donc la souffrance animale par rapport à l'égorgement, donc est présente comme les médias, comme une pratique arriérée. Elle est dénoncée donc par certains jeunes, qui sont assez politisés, hein, comme étant un faux débat, pour éviter de parler de vrais sujets, de la pauvreté par exemple, et des gens qui ont faim. Hein. Donc ils disent en fait, on nous attribue des choses monstrueuses, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves, et notamment des gens qui ont faim, et notamment dans la région, il y a beaucoup de SDF hein, qui font la route entre Bordeaux et Bergerac, et ils disent, et en plus ces gens-là, ils ne sont pas arabes. Donc ils essayent de se distancier aussi de l'ethnicisation de la pauvreté, qu'il aurait attribué. Et alors, on voit comment aussi ils essayent à travers... j'ai réécouté... j'ai réécouté un entretien parce que j'étais pas tout à fait sûre, mais il y a un moment donné où je me suis demandé, mais quand ils essayent de se distancier par rapport à cette souffrance animale, il y a eu un moment donné où l'un d'eux me disait, puisqu'ils étaient plusieurs à parler, mais finalement, ils essayent de nous associer aux bêtes, nous aussi. C'est comme si nous, c'était nous les bêtes. Enfin, il y a eu une espèce de jeu de mots autour de la souffrance faite aux bêtes, et puis c'est nous qu'on considère comme des bêtes. Et on voit comment ils essayent finalement de s'humaniser à travers leur rapport rural à l'animal, puisqu'ils disent finalement que si un animal est bien élevé, pourquoi se centrer sur l'égorgement ? Finalement, ça paraît quand même un petit peu déplacé. Et donc, on voit aussi que ces jeunes qui vivent avec des grands-pères ou des pères qui ont pratiqué l'égorgement, puisque la question du halal s'est posée dans cette région de manière de la transmission, je dirais, de valeurs aussi ethniques et familiales, où il n'y avait pas de boucherie, on allait peut-être chez le juif de la Montsie-Saint-Martin, à côté de Bergerac, pour acheter des produits cachers. Mais en tous les cas, la question de l'égorgement fait partie des pratiques quotidiennes, comme peut-être certains d'entre vous ont vu le cochon égorgé enfin, à la maison, enfin, je veux dire, des choses qu'on a tous peut-être aussi partagées à un moment ou à un autre. Donc on voit ici comment la question de l'humanisation passe aussi par des pratiques qui sont familiales, qui sont partagées. Donc qu'est-ce qui se passe dans les familles, alors finalement, autour de ces débats de Marine Le Pen, etc. Et donc, on voit que ça, je dirais, accru une certaine forme de réflexivité, parce que je ne vais pas dire qu'elle n'était pas présente, la réflexivité, puisque c'est vrai que le processus de minorisation ethnique, et je ne suis pas la seule à le dire, tout ce qui travaille dans le cadre des relations interethniques et des migrations internationales l'ont montré, le processus de minorisation ethnique provoque de la réflexivité, interroge sur son identité. Mais là, j'avoue que ces propos tenus, donc... par Marine Le Pen, mais aussi par Mélenchon, par Fillon, etc., interroge mes interlocuteurs. Et donc, on voit comment ça amène des discussions animées, hein, puisque moi, je passe dans les familles, puisque j'ai oublié de préciser, je partage le même territoire, j'habite sur le même territoire, donc je peux débarquer au moment où ils sont en train de discuter de ces choses-là. Et on voit comment, à l'intérieur des familles, pour les plus jeunes, ça a permis de reformuler une certaine logique du religieux et de le considérer comme une expression de leur individualité, de leur agentivité par rapport à leurs parents. Ça permet d'affirmer un choix personnel par rapport aux grands-parents, surtout, qui sont considérés comme subissants, entre guillemets, dominés, dans la religion comme au travail, des travailleurs immigrés, des bêtes de somme, et ce que eux refusent absolument d'être. Ils souhaitent finalement contourner la domination dans laquelle leurs familles sont inscrites. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça pourrait être plus compliqué. Donc, on voit comment parents ou grands-parents, qui sont décrits comme ayant tout fait pour devenir français, jusqu'à boire du vin, jusqu'à manger du pâté de cochon au bout des rangs de vigne au moment de la pause, n'ont accédé à aucune égalité et ont obtenu finalement uniquement le racisme, hein, en finale. Donc on voit comment le halal sonne dans les discours à l'intérieur de ces familles des vieux migrants comme une sorte, alors là, de déprise, comme dirait Vincent Caradec, avec le monde professionnel qu'ils ne fréquentent plus, et comme un lieu d'investissement personnel mais aussi collectif au moment d'un temps libre obligatoire, au moment d'un chômage imposé, hein, puisqu'en fait, les transformations du monde viticole ont fait que ces gens-là qui avaient des CDI se sont retrouvés à retravailler à la tâche à 55 ans ou 60 ans, alors qu'ils avaient tout donné en termes de temps, en termes de participation sur les propriétés viticoles sur lesquelles ils avaient travaillé. Et donc, au moment de cet entre-deux, je dirais, entre un chômage imposé et la retraite, on voit aussi comment le halal est finalement investi comme un moyen aussi de faire du collectif par la fréquentation assidue des élevages ou des abattoirs, par exemple. Il y a du collectif qui est organisé autour de ces pratiques pour récupérer une viande halalisée. De plus, le halal résonne aussi avec la confrontation avec la mort. Hein, puisqu'en fait, ils vieillissent, hein, ce sont des gens qui sont là depuis 30 ou 40 ans, et comment la mort, avec la mort des coethniques ou des membres de la famille, ravive aussi l'échéance du jugement dernier et les prescriptions ici-bas qu'il implique de respecter. Donc on voit bien comment l'adhésion à ces normes rituelles alimentaires fonctionne comme des stratégies d'identification qui ne sont pas uniquement mises en place à l'égard des acteurs majoritaires, puisqu'elles relèvent également de la cohésion et de la transmission intra-minoritaire, hein, donc comme le disait Simona Tersini. Toutefois, cette adhésion est renforcée lors de l'interaction avec les majoritaires. À ce sujet, la cantine, que je n'ai pas observée, mais à la cantine, mes jeunes interlocuteurs évoquent ces moments où il y a des discussions qui ont été provoquées avec les jeunes majoritaires, parce que j'ai aussi discuté avec les jeunes majoritaires de leur perception de ces discours du Front National et comment ils voyaient la place des jeunes musulmans à l'intérieur de l'espace scolaire. Et donc on voit qu'il y a, de ce qu'ils me disent, à la cantine, il y a des nombreuses discussions qui ont lieu avec les jeunes majoritaires qui peuvent, disent-ils, les jeunes musulmans me disent qu'ils sont interpellés par leurs copains de classe, quoi, pour discuter sur « mais pourquoi vous mangez pas comme nous ? Pourquoi vous voulez du halal ? Pourquoi l'égorgement comme ci, comme ça ?» Donc il y a des discussions qui sont menées autour de ça. Et donc on voit que pour les plus jeunes, la conception du halal diffusée par le FN, comme se diffusant sournoisement à l'insu des consommateurs majoritaires, est construit au pôle négatif de leur positionnement en tant que citoyens français, qui révèle au contraire un choix, un engagement affiché pour une alimentation éthique. Et puis, on voit aussi comment le discours de Marine Le Pen est considéré comme fasciste, extrémiste, contre la liberté. Et il les oppose aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et pour eux, la possibilité de manger halal à la cantine, c'est comme la revendication d'une égalité au sein de la République, contrairement à ce qu'a pu montrer, par exemple, Christine Rodier ou Julie Lauré, qui voyaient dans le halal une opposition à la République du fait d'un héritage colonial, etc. Alors là, au contraire, moi, j'ai vu un engagement pour une participation à l'espace républicain. Et ils me disent souvent, on est au pays des droits de l'homme, non ? Donc, ils y voient une espèce de revendication politique. Donc, ils revendiquent par la présence du halal dans les menus de la cantine donc, une certaine égalité de traitement par rapport aux catholiques aussi, et surtout dans cette région, la Sainte-Foy-la-Grande, par exemple, il y a un protestantisme assez affiché. Ils estiment que selon eux, si le halal était accepté dans l'espace public, ben, ça permettrait finalement d'avoir le même traitement que ceux qui ont le droit d'avoir le poisson du vendredi, ceux qui ont le droit d'avoir la dinde à Noël. Donc, il y a une jeune élève de terminale qui m'exprime ainsi son souci d'égalité. Bon, à la cantine, un menu sans porc n'équivaut pas à un menu avec halal. Je trouvais que ça donnait bien à voir l'idée de participation citoyenne à cet espace. Je voulais aussi évoquer que la cantine n'était pas seulement le lieu des jeunes adolescents ou préadolescents, c'est aussi le lieu pour les jeunes parents d'exprimer leur participation donc, à l'espace local, puisque dans ce contexte viticole très tendu, notamment à Castillon-la-Bataille, où je vous l'ai dit, donc, le FN a obtenu 27% des voix au moment du premier tour des élections présidentielles, ils ont reçu un courrier du maire leur stipulant qu'il n'y aurait pas nourriture halal à la cantine, alors qu'ils avaient strictement rien demandé. Donc ils ont perçu ça comme étant un affront, remettant en cause leur appartenance à la nation française par le différentialisme dont ils faisaient l'objet, tout en revendiquant la possibilité de manger halal, mais quand ils le désirent. Donc on voit bien aussi comment, autour de la cantine, se jouent pour les jeunes parents des positionnements dans l'espace public. Donc on peut parler à cet égard d'une sorte de déprivatisation de l'islam, selon l'expression de Simona Tersini, qui devient un enjeu de citoyenneté dans l'espace public. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers cet exposé, on a essayé de mettre en évidence, tant au niveau macro que micro, comment, du fait de la mise en tension du culturel, du religieux, de l'éthique, de l'individuel et de l'économique, le halal relève de ce que le chercheur Peter Jackson appelle une économie morale, comme a pu le montrer Sidney Mintz, par exemple, pour le sucre. et comment le halal constitue une économie morale partagée entre minoritaires et majoritaires, mais dans une relation asymétrique. Comment le halal, par sa plasticité, par sa dimension situationnelle, met en évidence combien la responsabilité individuelle face à l'alimentation en général et au halal en particulier révèle aussi de décisions morales, personnelles, poursuivies par les uns et pour les autres pour finalement atteindre un certain contrôle de soi. Et en fait, en dépit d'une vulgate qui tend à vouloir imposer un retour du religieux qui s'imposerait à la laïcité, il nous a semblé que nous assistons surtout, à travers les enjeux autour du halal, à une sécularisation qui implique l'affirmation de droits et de besoins individuels, y compris sur le plan religieux.
Merci. Merci.